Bienvenue, on va ensemble discuter un petit peu de ton travail, Mathieu Shadowsky. On va lancer une série de podcasts afin que tu nous transmettes un petit peu tes recherches, ton travail, qu'on puisse comprendre, que tu rendes aussi accessible via un format d'écoute finalement toutes tes recherches musicales, tes recherches dans tout un tas de domaines. On va un petit peu plonger dedans et comprendre qu'est-ce qui ressort de toutes ces recherches, non?
De l'alchimiste.
Exactement. Alors, le premier épisode consiste déjà un petit peu à ce que tu te présentes toi, que tu nous racontes un petit peu le parcours que tu as pu avoir dans les grandes lignes, histoire de déguiser nos auditeurs sur la suite.
Comment ça a commencé tout ça, cette affaire, cet intérêt pour la musique? C'était pour draguer les filles.
Ok, on est sur quelque chose de,
Qui n'a rien à voir avec la musique.
bah finalement de très concret. Je veux dire,
Voilà, c'est ça. C'était
c'est un argument qui se
à
tient.
l'époque, dans les années 70, oui, 70, donc il y avait les guitares héros. Et c'est vrai que la guitare électrique, à l'époque, c'était des personnages importants dans la société.
Attention à ne pas confondre avec Guitar Hero le jeu vidéo où les gens appuient sur des boutons. Hein. On n'est pas sur ce Guitar Hero là.
Ah oui, non, je sens que je suis pas au courant.
Non, 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 on est sur Guitar Hero, c'est-à-dire.
Jimi Hendrix,
Voilà, les
Jimmy
vraies
Page,
figures.
de cette époque-là, du rock'n'roll,
Non, juste pour éclaircir quand même.
qui à la fois représentait, fait de la guitare électrique, représentait aussi d'être rebelle. Après 68, tout le monde devait réfléchir et être rebelle. C'est une période en fait de libération,
D'accord.
même, et de répression en même temps. La répression était très forte aussi.
Tu étais où à ce moment-là? Où est-ce que tu vivais?
Ben, chez les parents.
Chez les parents, où ça alors?
Et en fait, on était en banlieue sud de
Ouais,
Paris. On
donc
était
côté de Paris, ouais.
à côté de Paris.
D'accord.
On était à Antony.
Ouais.
Antony, qui était au nord des Hubourgeois et au sud les Prolos.
D'accord. Donc il y avait
Il y avait déjà
déjà un combat.
une ségrégation et une ségrégation sociale, mais moi qui me.
Touchez pas tant que
Non,
ça.
qui ne touchais pas trop. Parce qu'en fait, la musique et la guitare électrique et les groupes, ça touchait tout le monde, même les bourgeois, même
Donc
les.
c'était plutôt quelque chose de réunificateur alors.
Ouais, c'était très réunificateur, ouais. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que au lycée, donc après 68, on a formé un groupe de rock Odyssée,
D'accord, donc t'avais un groupe, ouais.
un groupe de rock Odyssée, et on a fait comme les Beatles, on a joué sur le toit, on a fait des conneries, et on avait des filles qui venaient nous
Ah,
voir.
voilà, ça
Voilà, c'était ça le
c'est
truc.
surtout ça.
C'était important, en fait.
Ah, d'accord, donc ça a été en tout cas un déclencheur. Et qu'est-ce
Ça a
qui
été un
t'a.
déclencheur, comme on dit aujourd'hui, de lien social,
Lien
en fait.
social.
On a généré quelque chose, parce qu'en fait, on faisait aussi des concerts dans le lycée. Et le directeur de l'époque, qui après 68, donc a fait une ouverture, en fait, une ouverture d'esprit, en fait, a essayé d'être ouvert d'esprit, pour pas qu'il y ait cette domination professeur-élève,
D'accord.
nous avait passé une salle de répétition dans le lycée.
Ah,
Donc on faisait du
intéressant.
rock'n'roll avec des amplis de guitare et des batteries dans le lycée.
C'était quelque chose qui était accessible, qui avait été rendu accessible en fait.
Ouais.
D'accord. Et ça s'est exporté un petit peu chez toi, non?
Je.
Tu avais un petit studio chez toi déjà à l'époque ou non?
Non, j'avais juste l'ampli de guitare et puis la guitare
D'accord.
électrique.
D'accord, ok.
Ça a commencé, j'avais 13 ans, je crois que mon père, oui, c'est ça, il m'avait acheté ça quand j'avais 13 ans, mais j'étais fou furieux, c'était trop génial, j'étais à fond.
Yes.
Donc on mettait bien sûr l'ampli, quand tu mettais très, très fort l'ampli, il y avait tout qui vibrait, et je trouvais ça formidable, ça faisait une sorte de vibration, un massage.
Et alors comment ça a évolué après? Parce que finalement il y a eu cette découverte au sein du lycée, ce partage, ce lien social, les filles, mais à quel moment ça a pris une dimension un peu plus professionnelle ou quand est-ce que tu t'es dit j'ai envie de plonger là dans la musique, ça va, c'est quelque chose
En fait,
que.
il y a une date, oui. Parce que c'est vrai que le rock and roll est basé sur le blues. Et le blues, en fait, c'est une gamme pentatonique à 5 tons. Et c'est quand même
Alors, on rentre dans
très.
quelque chose d'assez technique,
C'est
mais.
restrictif. En fait, on a 5 notes dans la gamme, en fait, dans le blues. C'est-à-dire, le blues, en fait, ça a été inventé par les esclaves noirs aux États-Unis, le blues, ça veut dire la peine, donc ils étaient en peine. Et en fait, ils ont mélangé deux choses. En fait, ils ont mélangé la musique africaine, le rythme africain, avec la musique de la fanfare européenne. Et en fait, de la musique européenne, ils ont pris dans la théorie musicale la base basique, vraiment le basique, c'est-à-dire les 5 tons, en fait, qui se retrouvent dans la gamme pentatonique, dans le blues, et qui se retrouve en fait dans notre gamme aussi, dans notre gamme, et ce qu'on appelle en fait tonique dominante sous-dominante, ça fait tin, 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 qui fait, et il n'y a que trois accords en fait,
il y avait
donc aussi ça tourne autour de trois accords, et sont toujours ces solos en pentatonique.
D'accord, donc il y avait aussi cette dimension un petit peu de réunification, c'est intéressant.
Le truc est absolument génial, parce qu'en fait c'est comme si c'était de la musique grise en fait, parce qu'entre le noir africain qui se retrouve en fait exploité, exporté en fait dans une situation dégueulasse d'esclavage et qui en fait prend la musique en fait des blancs d'Europe qui vont exporter leur fanfare en fait aux États-Unis, qui s'empare en fait des instruments de la fanfare et qui commence à jouer du blues avec ça, avec des guitares aussi ou des instruments à cordes qui copient les guitares. En fait, ils ont créé un style. Et un style, en fait, que les Blancs se sont emparés pour en faire du rock'n'roll. D'accord. Parce qu'ils l'ont accéléré, en fait.
Donc là, en fait, t'es en train de me dire qu'à 15 ans, 15-16 ans, t'avais déjà compris tout ça.
Je pense pas, non.
Très bien. Alors, on va reprendre dans l'ordre, dans la découverte de la musique avec tout ce partage. Super intéressant de voir justement ce côté réunification qui se matérialise même par l'histoire un petit peu de la musique.
Mais
toi, si on se refocalise un petit peu sur toi, comment ça s'est développé après ? Je veux dire, tu as découvert la musique via le lycée, tu avais accès à des instruments, tu as eu du partage, un groupe, et puis toi, personnellement, comment ça s'est développé
Après le groupe, en fait, on a fait... J'ai continué plus ou moins dans le rock'n'roll, ça me faisait marrer, parce qu'en fait, il y avait toujours de l'ambiance. Dans le rock'n'roll, il y avait de l'ambiance. Les concerts, les gens n'étaient pas assis.
D'accord.
Ils étaient debout. On avait fait des concerts à Vitry, je me rappelle, dans une salle, parce qu'ils nous ont donné, nous, on était des mioches à l'époque, on avait 13-14 ans. Mais on a réussi à monter une salle, ils étaient 1000 personnes, ils étaient à fond.
Qu'est-ce qui s'est passé après le lycée ?
Après, ce qui s'est passé, c'est que... on est parti en Pologne. Et là, à ce moment-là, en Pologne, j'ai continué en fait le conservatoire que je faisais, le conservatoire de musique classique aussi en France. Donc là-bas, j'ai continué, je me suis inscrit au conservatoire. Donc j'ai fait un an à l'école, ils appelaient ça l'école moyenne. Et après, en fait, je suis passé à l'école supérieure où j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas.
D'accord.
J'ai découvert en fait un festival qui s'appelait l'automne de Varsovie là-bas. Et à ce moment-là, je soupçonnais déjà, parce que je connaissais Pierre-Henri déjà un petit peu, mais là, en fait, j'ai reçu une claque, quoi.
D'accord, donc qui est Pierre-Henri ?
Pierre-Henri, c'est un compositeur-musicien qui a révolutionné la musique électronique à partir des années 50.
D'accord.
Et qui a inventé, avec Pierre Schaeffer, un autre type, à la Maison de la Radio, la musique concrète.
D'accord.
La musique concrète était une idée, en fait, de faire de la musique avec des bruits. C'était en... juste après la guerre.
Ce qui est marrant, c'est que tu as découvert ça à Varsovie, alors que ça se passait en France.
Ouais. C'est drôle, ouais.
D'accord.
C'est très drôle.
Ouais. Donc, en fait...
20 ans après.
20 ans après que ces recherches de ces personnes-là...
30, en fait, je pense. Ouais.
Soient faites.
Ans, ouais.
Donc toi tu étais à Varsovie, tu continuais ces études dans la musique.
Et les copains m'ont pris au festival, et là j'ai rencontré des gens, et là j'ai halluciné.
D'accord.
Là je me suis dit, waouh, c'est la musique, je vais être compositeur.
Ok, c'est à ce moment-là où il y a eu une bascule sur une envie.
Et j'en ai rencontré un particulièrement qui s'appelait Joseph Anton Riedel. Et Joseph Anton Riedel faisait de la musique avec des bouts de carton et du verre. Il appelait ça d'ailleurs Glass Spiele.
D'accord.
Qui veut dire jeu de verre. Et Paper Spiele, qui est jeu de papier. Et donc il prenait du papier, il prenait du verre, puis il faisait toutes sortes de sons comme ça, puis ils avaient l'air de se marrer. Enfin,
excellent.
C'était super. C'était très joyeux. Je me suis dit, waouh!
Ouais, qu'est-ce que c'est que ça?
Et là, yes. Là, je pense que je vais aller creuser là-dedans.
D'accord. Et est-ce qu'il y avait déjà un peu un nom de mouvement à ce type d'initiative, ou on pouvait c'était catégorisé ou pas tellement? Quand tu as vu
ils appelaient ça l'avant-garde à l'époque.
L'avant-garde, pense, ouais. D'accord. L'avant-garde. Ça faisait partie finalement de.
C'était l'avant-garde.
Ouais, du mouvement avant-garde.
Ouais.
D'accord.
La musique concrète, la musique électronique, tout ça, comment ça se mêlait, parce qu'en fait, c'était aussi, comment dire, la première utilisation de l'enregistrement.
Là, on était à peu près en quelle année, là ?
On était en 78, je pense. 77, ouais, j'avais 16 ans.
D'accord.
Ouais, j'avais 16 ans.
À 16 ans, ouais. Donc, il y en a encore du chemin, alors. Si on n'en est qu'à 16 ans, je pensais qu'on avait fait un petit bond, en fait. Non, pas tant. Alors, si on avance un petit peu dans les années, comment ça s'est développé? Alors, une fois que tu as eu cette révélation-là à 16 ans, avec.
Ah bah, je me suis intéressé à toutes ces musiques, et alors là, comme un curieux, j'ai cherché partout.
T'as creusé.
J'ai creusé partout, et j'ai cherché. Parce que j'avais déjà un gros bagage de musique classique dans les conservatoires, hein, puis bon, le conservatoire à l'époque dans les pays de l'Est était beaucoup plus, le niveau est plus élevé qu'en France. On est passé, il y avait de l'analyse, enfin toutes sortes de trucs, l'histoire de la musique, machin, et même l'improvisation classique en fait.
D'accord.
Qu'en France, ça n'existe pas.
Ah, il y avait tout un.
Il y a tout un pan de la théorie musicale. Il y a tout un pan de la théorie musicale qui est oublié en France, qui est. Par exemple, tu vois les modes tziganes qui sont étudiés dans les pays de l'Est, alors qu'ici, ils sont oubliés.
On n'a pas des études. D'accord.
Les études sont assez merdiques ici. Ouais.
D'accord. C'est intéressant de noter ça aussi. Ouais. Il faudrait peut-être voir maintenant si c'est toujours le cas ou si.
On dirait que oui.
D'accord. Ouais. Bah, ça reste à vérifier. Ouais. Et alors après ça, comment ça s'est passé?
Et donc après ça, je suis revenu en France, à Paris.
Ouais.
Je suis revenu à Paris et je me suis dit, bah, il faut que je continue dans cette voie, il faut que j'aille chercher encore plus. Et donc, après le bac, je me suis inscrit à la Sorbonne, et à la Sorbonne, il s'est arrêté à Debussy. Je lui ai dit, tiens, je suis emmerdé, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est après Debussy, c'est pas avant. Quoi.
D'accord, donc là, on est sur l'histoire de la musique. Debussy, si tu nous recontextualises un petit peu.
Debussy, c'est un compositeur du 19e siècle, c'est lui, c'est de la période impressionniste. Et qui a entre autres inventé un truc très intéressant, en fait, qui a poussé un peu plus la théorie en proposant en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la gamme par ton, et qui a une couleur très particulière et qui donne toute la couleur de la musique de Debussy.
D'accord.
On y reviendra plus tard. Parce que d'accord. C'est une petite révolution. En fait,
ça marche. Dans l'affaire. Ok. Donc là, tu reviens sur Paris.
Voilà, je reviens sur Paris et donc il fallait que je trouve une école. J'ai cherché une école. D'abord, la première chose, je suis au Conservatoire National de Paris, enfin la grande école, tout ça. Et donc j'ai fait les premiers concours, et en fait j'étais en relation avec les étudiants qui étaient en composition, parce que je voulais m'inscrire en composition tout de suite. Moi c'est la composition, c'est clair.
C'était ça.
Et donc il y a des copains qui me disent, ouais, il faut qu'on fasse des écritures à la mode de Mozart et Bach, et puis en plus ils nous corrigent les partitions au stylo rouge. J'ai dit, attendez, non mais c'est une plaisanterie. J'ai dit, c'est pas possible. Et en fait, si, c'était possible. Quoi. C'était... Il y avait une partie électronique, il y avait quelques professeurs, mais en fait, ils étaient un ou deux en fait, qui pouvaient être intéressants. Mais en fait, si tu ne voulais pas avoir le cursus et en fait, avoir le diplôme, tu étais obligé de te farcir tous les trucs que tu n'avais pas envie. Quoi.
D'accord, donc ça, c'est vraiment...
Donc là, je me suis dit, non, je vais aller à la fac, je ne vais plus travailler à l'université, puis finalement, à la Sorbonne, donc ça s'arrête à Debussy, et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve quelque chose. Quoi.
Ça n'allait pas assez loin. Quoi.
Ça n'allait pas assez loin, et c'est à ce moment-là où je découvre Paris 8.
D'accord.
Et c'est là où je découvre Paris 8, qui était la seule université à l'époque en fait qui faisait de la musique informatique. En 78. Hein.
En 78, ouais. Paris 8, historiquement,
Paris 8, de 68.
De 68, c'est ça.
De 68, dont alors le truc qui était rigolo, c'est que c'était Pompidou à l'époque, le président de la République, qui avait alloué en fait à l'université des terrains militaires à Vincennes. On avait Vincennes.
Avec l'université libre.
C'est ça. Et l'idée d'université libre. L'université libre, ça voulait dire qu'on choisissait en fait les cours et on se faisait notre propre menu.
À la carte.
Enfin, à la carte.
C'était l'étudiant qui avait vraiment le pas sur ce qu'il avait envie d'apprendre, ce qu'il voulait pousser. Et c'est intéressant parce que c'était ce contre-pied-là que tu as pu découvrir, notamment ces examens pour tout ce qui va être composition. Pour devenir compositeur, c'était finalement très très lié à un ancien mode de production et qui prenait pas du tout en compte toute l'arrivée du numérique et toutes les possibilités techniques.
À l'école, au Conservatoire de Paris, ils ne prenaient pas du tout en compte les nouvelles technologies. Enfin, c'est un petit peu. Mais c'était. Quand l'autre m'a dit qu'en composition c'était ça, je lui ai dit non, mais c'est pas possible.
Bon, ça a été Next, et puis Paris 8.
Paris 8. Et à Paris 8, donc il y avait des pointures en analyse, et donc aussi en musique informatique, en mathématiques. Et là, j'ai appris des trucs, mais que je ne pensais pas revenir aux mathématiques avec la musique. Et ça a été. Le gros bagage mathématique.
Donc là, on a
Xenakis, en fait. Parce que Xenakis, en fait, a enseigné à Paris 8. Après, il est parti à la Sorbonne, mais pour les thèses.
Donc, Xenakis, en tant que prof, c'est ça?
Oui, mais pour les thèses, pour la thèse, en fait. D'accord.
Fin de parcours.
Pas au début.
Ce qu'on appelle master, quoi, pour le niveau master.
Et là, j'ai découvert tout ce monde-là. Wow.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a finalement eu ce mélange de domaines. Quand tu évoquais un peu les maths, finalement c'était dans C'était quoi le chapeau du nom de ce que tu... C'était quoi la filière? C'était musique? Je sais pas. Musique à Paris 8.
Musicologie à Paris 8. Musicologie, mais c'était ça, ça allait bien au-delà de ça.
Voilà.
Ça allait vraiment, franchement, au-delà de ça. Ce n'était pas que de l'histoire de la musique. C'était, en fait, on apprenait ce qui se faisait, en fait, dans le présent. C'était ça. Et moi, j'étais ravi.
OK.
Enfin, toutes les techniques de composition de Stockhausen, on est passé... de Mauricio Kagel, en fait, parce que c'était des inventeurs, tous ces gens-là, en fait, au XXe siècle, ils ont inventé. Ils avaient des nouveaux outils, ils avaient de nouveaux matériaux, ils avaient des synthétiseurs électroniques. Pierre-Henri, il a fait des musiques invraisemblables. Il avait des idées de faire de la musique avec l'esprit, avec les ondes alpha de...
Enfin, ça allait. Il y avait un champ des possibles
Ça allait dans tous les sens. Il y avait une créativité, une possibilité, des ouvertures, et aussi une espèce de comment dire. Des bonnes relations entre les personnes, entre les compositeurs, et les musiciens. Il y avait un désir commun, en fait, à la fois une curiosité et à la fois un désir de réaliser des trucs impossibles à réaliser qu'on n'avait jamais entendu.
Et donc ça, à Paris, tu as vu ça? C'était à Paris aussi?
C'était à Paris aussi.
À Paris, ouais.
À Paris aussi.
Très bien. Et alors, après, comment ça s'est développé? Donc, la fac, ça s'est terminé, t'as fini les études assez tard?
En 87, ils ont fermé le dispositif de liberté. C'est-à-dire qu'ils ont fait des cursus obligatoires avec harmonie classique et tout ça, et donc c'est à ce moment-là que je suis parti.
Alors qu'ils étaient vraiment sous un modèle type l'université libre. Ouais.
Mais depuis que j'étais rentré, en fait, quand j'étais rentré en 77, 78, non, 78 ou 79, je ne me rappelle plus. Et il y avait une publicité du Figaro où il disait on a inscrit un cheval à Paris 8, c'était pour descendre Paris 8.
Wow, à l'époque. Attaque.
Attaque non permanente, ouais. Les budgets étaient à zéro, on avait des équipements qui ne pouvaient pas se renouveler. C'était l'époque où ça a déménagé de Vincennes à Saint-Denis. On est arrivé dans des locaux en préfabriqué béton.
Qui sont a priori toujours les mêmes aujourd'hui, hein, je pense. Parce que c'est à Paris 8, c'est à Saint-Denis.
Je ne suis pas tourné. Les équipements étaient vraiment vétustes, je ne sais pas renouveler, il n'y avait jamais de budget, les professeurs n'étaient pas payés. C'était sans arrêt, en fait,
un combat aussi, finalement.
Permanent, c'était permanent. Par contre, il y avait un savoir. Et les gens qui enseignaient là-bas, c'était les plus hauts, c'était les grandes têtes, quoi. Je veux dire, Gilles Deleuze en premier, quoi. Gilles Deleuze, ce philosophe qui a... toute la fac était émergée des pensées de Gilles Deleuze.
Il était à Paris 8 à cette période-là, ouais.
On ne pouvait pas rater Gilles Deleuze, c'était pas possible, quoi, tu vois, on allait au cours de Gilles Deleuze, quoi. Et puis il était ravi, en plus, parce qu'il disait, vous n'êtes pas des étudiants philosophes, vous êtes des étudiants musiciens, et vous me posez des questions qui n'ont rien à voir avec, vous n'êtes pas scolaire, quoi. Vous me posez des questions, parlez tout ça, c'était...
Gilles Deleuze qui est clairement un philosophe qui pousse cette question-là de confronter les domaines, que les choses... n'ont pas forcément de lien a priori, mais sont en résonance, et c'est intéressant aussi toute cette dimension-là de réflexion pour aussi la musique, je pense.
Absolument, c'est ça que ça interagit, moi ça m'a beaucoup influencé, cette pensée, cette pensée rhizomatique, avec
les rhizomes.
La pensée matricielle en plus, parce qu'en mathématiques, ça rejoignait les cours de mathématiques, en fait, où il fallait penser matrice, c'est-à-dire qu'en fait il fallait penser possible. Il ne fallait pas penser, en fait, ordre, fermeture, et ordonnance, il fallait penser possible.
Donc là, c'est un petit peu, finalement, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, un champ des possibles qui s'offrait aussi à côté de grandes personnes, je dis grandes entre parenthèses, mais des personnes qui, en tout cas, étaient accessibles, qui partageaient un savoir avec une émulation. Néanmoins, même s'il y avait peu de moyens, finalement, il s'est passé des choses, quoi. Et après, comment ça s'est passé après? Alors, tu as eu le diplôme.
Quand je suis sorti, en fait, de Paris 8 avec un master, comme on dit aujourd'hui. Et puis après, je suis allé voir Xenakis, quoi, qui faisait les thèses à la Sorbonne, quoi. Et puis après, j'ai terminé là. Puis après, et en parallèle, pendant tout ce temps-là, en fait, d'étudiant, moi, je faisais mon truc de musicien,
ton travail personnel.
Puis à un moment, je suis passé à l'IRCAM aussi pendant 4 ans. Je pensais que j'allais bosser là-bas parce que pour moi, c'était un studio de recherche pour moi, un atelier de travail.
Et pourquoi l'IRCAM alors? Tu avais décidé d'aller à l'IRCAM?
Ben parce qu'en fait, c'était le premier qui avait des ordinateurs. Les premiers ordinateurs pour la musique étaient à l'IRCAM.
Donc c'est par le matériel, quoi. Ils avaient du matériel.
Mais ils avaient de l'équipement, oui.
Ce qui changeait un peu de Paris 8.
Mais oui, c'est ça, oui. Mais en fait, il s'est avéré que cet équipement était... bon, après, il y a eu c'était une institution, en fait. D'ailleurs, ça s'appelle institution. L'IRCAM, ça veut dire institution de recherche et de coordination acoustique-musique.
D'accord.
C'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a Boulez qui était là, qui est devenu empereur roi-chef, là, et une fois qu'il avait ce pas d'opposition, il est devenu insupportable.
c'était moins simple de produire.
Ben oui, non, il n'y avait pas la place. C'était son studio à lui, quoi.
D'accord. Et donc, l'IRCAM, là-bas, tu as développé quoi personnellement par rapport à ta pratique C'est ce qui t'a emmené quelque part? Où est-ce que ça t'a emmené l'IRCAM?
L'idée, c'est qu'en fait, la technologie, au tout début, m'avait fasciné. Quand je suis rentré dans le studio de musique électronique de Varsovie, où j'ai vu des espèces de des machines avec des boutons partout, je me suis dit, ouais, je veux. Je veux toucher ce Mozart, comment ça sonne?
Curiosité.
Ah oui, à fond. Et à Varsovie, en fait, le professeur me dit, mais non, vous devez faire au moins 15 ans d'études, ingénieur, mathématiques et tout ça. Mais j'ai dit, mais non, mais je veux juste toucher le bouton. Et donc, il m'a dit, non, je ne peux pas vous laisser rentrer au studio pour faire de la musique. Mais je viens juste un petit moment. Non. Donc, en fait, on faisait des cours au studio de musique électronique, mais on n'avait pas le droit de toucher aux instruments.
Donc, c'était plus théorique que pratique.
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, allez, ça commence à me... Il faut que je touche, quoi.
Tout à fait. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est développé après?
Donc, après, à Paris 8, il y avait des synthétiseurs dans le studio, des VCS3, que j'ai un EMS VCS3, un petit analogique que j'ai retrouvé après dans les années 90.
Yes.
qui est mon synthétiseur fétiche. Et après, donc, bien sûr, l'IRCAM, parce qu'au tout début, en fait, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, cette pensée, mais c'est la musique spatiale, c'était... C'était une obligation. Enfin, je sais pas, il y a eu un moment, j'ai eu une espèce de vision où je me retrouvais dans un bus avec un brouillard et ce bus qui filait, et moi je me réveille et je me dis, cette sensation en fait de ne pas savoir où on est sur un espace totalement étranger, qu'on ne reconnaît pas, dans un réveil, dans un brouillard, avec
Je pense qu'on a tous un petit peu vécu ce type de réveil où on a un écart entre le moment où on se réveille et la prise de conscience de l'espace dans lequel on se trouve.
Voilà. Donc il fallait que je fasse ça en musique.
Et il y avait quelque chose dans le son en plus.
Il fallait que je fasse ça en musique. Et donc, ça, en fait, c'est là où ça m'a amené dans la musique spatiale. Il fallait que je fasse ça. C'est-à-dire, en fait, c'est...
La prise de conscience...
J'étais fasciné par les sons qui voyagent. Et à un moment... Quand j'étais mieux, j'étais sur un lac gelé, et il y a une loutre qui est passée à toute berzingue, en fait, sous mes pieds, et qui faisait un son. Et là, j'ai entendu le son, en fait,
de ce passage.
J'ai dit, je veux ça. Et ça a été une obsession. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse ça. Et donc, audition, cette musique pour flûte.
On passe le bonjour à la loutre si elle nous entend. merci à toi. Tu as développé une curiosité aiguë sur le son.
Ben oui, parce que comment mettre dans une situation, tu vois, de semi-rêve et d'une conscience, en fait, on pourrait dire altérée, sans produit. C'est-à-dire de savoir qu'en fait, qu'il y a différentes réalités possibles, et qu'en fait, musicalement, tu peux, avec une composition musicale, réussir à faire ça. C'était l'idée.
D'accord.
Donc, utiliser l'espace pour ça. C'est-à-dire, en fait, la projection, le son qui se déplace dans l'espace.
J'imagine. Pas le dans l'espace. En tout cas, je préviens qu'on reviendra sur la musique spatiale. Il y aura un épisode entier dédié à ça. Donc, on va pouvoir développer là-dessus. Mais toi, par rapport à ton parcours, donc ça, on est rentré un petit peu sur l'évolution de ta pratique, de ta compréhension et de la connaissance liée à la musique. Donc là, découverte sur la musique spatiale. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ton parcours?
Alors oui, alors, bien sûr, fascination pour la musique concrète. Je trouvais ça, mais gonflé.
Mais très concrètement, je veux dire, physiquement, je sais que tu as beaucoup voyagé, je me permets de prendre un peu d'avance, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti de France, tu as développé des choses. Comment ça s'est passé vis-à-vis de ton parcours?
Je sais pas, j'étais aussi, en fait, que j'étais toujours été guitariste, hein, ça n'a pas changé. Et puis je faisais... aussi avec les copains en fait, au conservatoire de Varsovie, il y avait un truc qui était particulier, c'est que en fait tout le monde jouait de tous les genres musicaux. On jouait du classique, on jouait du jazz, on jouait du rock and roll. Il y avait pas de frontières entre les genres. Et ça, je trouve ça super, parce qu'à un moment on se retrouvait dans un club de jazz et puis on jouait du jazz, et puis on se retrouvait dans un club de rock où on jouait du rock. Et puis après on se retrouvait en concert de musique classique à la Philharmonie et puis on jouait du classique. D'accord. Dans l'orchestre ou tout ça, c'était quelque chose de particulier. Donc j'ai ce côté musicien.
D'accord.
qui me poursuit toujours.
Sur la, en fait, voilà, c'est ça, c'est le, à la fois le côté composition, compositeur de musique, oui. Et toujours en lien avec la pratique. Manuel. Et toujours et le, en lien avec le jeu en lui-même. Ouais.
Et le truc, c'est de vérifier toujours ce qui est cérébralement et conçu, manuellement, comment c'est possible.
D'avoir toujours ce lien entre, théorie et pratique.
Ouais. C'est, oui.
Et alors, comment ça s'est... on s'était arrêté à, finalement, après l'IRCAM. Qu'est-ce qui s'est passé après l'IRCAM?
On peut même aller un petit peu avant l'IRCAM. En fait, après, je suis allé à Jussieu.
Alors moi, je suis en train d'essayer de te pousser à aller plus loin.
Non, parce qu'il y a des temps, parce que pour te dire, en fait, que j'ai fait aussi de la physique acoustique avec Émile Lepp. Émile Lepp, qui était une personne très importante, en fait, à Paris. D'accord. Parce qu'en fait, c'était un physicien acousticien qui s'occupait de la musique. Une chose extrêmement rare, en fait. Et quand j'ai entendu ça, pouf, directement, j'ai lu son bouquin, paf, je suis allé à ses cours. Alors ses cours n'étaient pas reconnus, c'était très curieux. Mais bon, il était à Paris 6, ouais, Paris 6, Pierre et Marie Curie, qu'on dit aujourd'hui, je pense. Enfin, les trucs de science, quoi. Et donc, il avait son laboratoire là-bas, il faisait un petit journal aussi qui s'appelait le GAM, le groupe d'acoustique musique. Un savoir énorme, en fait, sur tous les instruments, analyse, acoustique. Ah oui, c'est franchement, c'était un super plaisir. Et là-bas, ça aussi, en fait, cet approfondissement donc physique d'un côté, mathématique de l'autre, ça m'a donné un bagage, en fait, pour dire, eh ben oui, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Si on fait ça, on fait ça. Un petit peu comme un apprenti sorcier qui va commencer à faire des trucs, parce que je vais dire, attends, si je mélange ce son, qu'est-ce que ça fait avec ça? Qu'est-ce que ça fait avec ça, avec cette technique? Si j'appuie avec mon muscle, il y a toutes les combinatoires possibles.
Bien sûr.
Et puis à l'époque, c'était aussi l'esprit combinatoire. C'était ce qu'on appelle le surréalisme boulésien.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on combinait tout ce qui était combinable.
Ok. C'est ouvert, encore. Très bien. Donc ça a été tout un champ. Après, sur ta recherche à toi, parce que là, on parle beaucoup de recherche où tu découvres finalement la recherche des autres, d'autres personnes qui t'inspirent. Et ta recherche à toi, alors? Elle s'est orientée dans quoi?
Ben en fait, j'ai un peu été un continuateur, quoi. La première chose, quand j'ai rencontré la musique concrète, donc je voyais, ils étaient en train de faire des objets, puis ils mettaient un micro dessus, ils enregistraient l'objet, et puis ils mettaient l'objet sur une bande magnétique, ils découpaient la bande magnétique, puis après ils la remontaient sur une autre bande magnétique.
Ça bidouille,
quoi. Mais une fois que la musique terminée, c'était de la musique enregistrée qui était en concert. Et moi, je me disais, on peut quand même aller plus loin, parce que c'est un peu chiant ces concerts avec des haut-parleurs où il n'y a personne, à part quelqu'un qui s'agite devant une console de mixage, c'est pas terrible. Quoi.
Les pistes.
Même si les sons sont intéressants, ça manque... Le concert, c'est quand même une relation musicien-public qui est très très forte. Il y a quelque chose qui se passe. Quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça concert, c'est concertation quand même. Donc faire une écoute, une audition dans une concertation, non, c'est un peu bizarre.
C'est intéressant, oui.
Donc j'ai pris tout de suite comme ça, et je me dis, bon, pourquoi ne pas prendre les objets et puis les jouer, en fait, comme des instruments de musique. Et voilà, ça a déclenché un des premiers trucs, ça a déclenché, en fait, la lampe d'architecte, quoi.
D'accord.
Donc, la lampe d'architecte qui était sur mon bureau, en tant que compositeur, où j'écrivais des partitions, puis à un moment, il y avait le ressort qui était avec gling, 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 et puis c'est parti, quoi.
Et à ce moment-là, t'étais où, toi? T'étais, où est-ce que tu...
J'étais à Paris.
T'étais à Paris à ce moment-là, ouais.
J'étais à Paris, ouais. Et en plus, donc c'était une période importante dans les années 80, très importante, on reste encore dans l'histoire, je veux dire, savoir d'où je sors. Il va se creuser, donc moi je suis vraiment passionné par toutes les musiques, c'est bon, moins la musique classique parce que j'en avais un petit peu, j'avais tout entendu, et que j'avais pas, bon, c'est bon, je vais pas répéter, quoi. Je préférais découvrir des trucs un peu nouveaux, quoi. Et donc, il y a eu une rupture très grave, en fait, qui s'est passée dans les fin des années 70, début des années 80.
D'accord.
Où, en fait, la musique d'avant-garde, en fait, s'est scindée en deux. Elle s'est scindée en musique contemporaine et en musique expérimentale.
Ok.
Et là, ça a été vraiment le début du cauchemar qu'on vit toujours aujourd'hui, quoi.
D'accord.
C'est qu'il y a eu un rejet, en fait, de la liberté, qu'il y a eu une offensive politique à ce moment-là.
Toute cette mixité dont on parle depuis le début, qui finalement...
Il y a eu, comment dire, la musique expérimentale a été rejetée de la musique contemporaine. Voilà. Donc la musique expérimentale s'est retrouvée, en fait, en underground. Qui s'est mêlé au rock'n'roll, au jazz, au free jazz aussi. Le free jazz a été interdit aussi dans les festivals. Ça a été un choc, en fait. Dans les années 80, en fait, les festivals de free jazz, il n'y avait plus personne. Il y avait quelques rescapés. Et on était là en train de se regarder. Je me dis, mais c'est waouh. C'était impressionnant, vraiment très impressionnant.
Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a pu orchestrer un truc pareil? Comment ça s'est... Tu sais un petit peu...
Aujourd'hui, je sais mieux, ouais. À l'époque, je comprenais vraiment pas et c'était une grande tristesse, en fait. Pourquoi des musiques inventives, en fait, se sont retrouvées rejetées hors du système économique, parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est-à-dire que nous, en fait, quand underground, ça veut dire qu'on était rejeté du système économique, qu'on ne pouvait plus enregistrer de disques, qu'on ne pouvait plus rentrer en studio, qu'on ne pouvait plus faire partie, en fait, de l'industrie de la musique.
Une certaine forme de marché, quoi, le marché de...
Du monde de la musique, tout simplement. Quoi. Donc, en fait, il y a un autre monde qui s'est ouvert, en fait, un monde underground, dans lequel où il y a une inventivité absolument gigantesque, parce que de toute façon, je veux dire, on n'avait plus rien à perdre. On était rejetés, de toute façon, du système. Ce qui a créé ça... Je pense que c'est la peur des dominants. Les dominants, ils ont eu la trouille. 68, ça a été pour eux, en fait, une claque où ils ont vraiment eu peur. Ils ont eu peur, en fait, qu'ils allaient détrôner. Et donc, ils ont fait des stratégies, en fait, ils avaient compris que les artistes étaient des gens dangereux, parce que c'était des gens, en fait, qui avaient besoin de liberté pour créer, et qui, en fait, insufflaient la liberté dans la société.
Libérateur, oui.
Voilà. Et donc, là, ils se sont dit, il faut s'attaquer aux arts. Donc, ils sont attaqués aux arts. Il y avait la part économique aussi, c'est-à-dire que quand Boulez et pourtant Boulez était une grande gueule, hein, c'était quelqu'un qui disait des gros mots.
Qui est Boulez?
Pierre Boulez, c'est un compositeur et un chef d'orchestre. Oui. Il s'est fait connaître en étant chef d'orchestre, parce qu'il disait qu'en tant que compositeur, on est méprisé, donc en tant que chef d'orchestre, on est admiré. Donc je vais devenir chef d'orchestre pour être...
cette bonne position.
Pour avoir cette position et pour pouvoir imposer en fait, la musique contemporaine. Et en fait, il a fait le contraire. C'est-à-dire qu'avec l'IRCAM qui était en fait un pôle en fait à Paris, en fait il a scindé, il a posé cette scission en fait entre la musique sérieuse contemporaine, ou on pourrait dire musique classique contemporaine, qui était très classique, et la musique expérimentale qui expérimentait comme même son collègue Mauricio Kagel qui jouait avec des objets, qui faisait des trucs, tu vois, qui faisait un peu qui faisait de la provocation politique et tout ça, mais... Et qu'à l'époque, il reconnaissait en plus son ami communiste, tu vois, notre compositeur italien, qui défendait tout à fait. Mais à un moment, ces années 80, je sais pas, on a l'impression qu'il avait tourné sa veste, qu'il est devenu impérialiste, quoi. Et en fait, il nous a jetés dehors. Quoi.
Et toi, là, à ce moment-là, dans ton parcours.
Et moi, à l'époque, donc, je faisais donc des recherches de musique, de physique acoustique, et donc j'avais toujours ma guitare classique. Et moi, j'étais fasciné par les archets, en fait, j'avais pas d'archets parce que ça coûtait cher, donc j'ai pris un bout de bois, je l'ai colophané. La colophane, c'est ce qu'on met, en fait, sur les archets pour avoir une note. Et j'ai découvert, en fait, une technique magistrale.
Tu as créé ta technique.
J'ai créé une technique, en fait, grâce en fait, à la physique acoustique, en creusant et en trouvant des choses absolument extraordinaires. À ce moment-là, donc, j'étais à l'IRCAM quand je faisais cette recherche. Et tout de suite, un concert. Quoi.
Ouais.
Et le public, à l'époque, donc en 84, l'idée, c'était obsédé de spatialisation. Donc, je voulais, avec cette guitare classique qui était couchée et que je jouais avec des archets de bois, donc il me donnait plusieurs notes en fait, donc ça me donnait des inharmonies et des masses sonores gigantesques avec une seule guitare classique que les autres avaient, mais avec des orchestres, moi je jouais avec la guitare. Et à l'époque je lui dis, mais moi je voudrais donc diviser le spectre, c'est-à-dire le grave, l'aigu, tu vois tout ça, en trois trucs, et de le balancer dans l'espace. Parce qu'on parlait de spatialisation, tout ça, moi j'étais complètement excité. Et finalement, le régisseur me prend et me dit, ben tiens, je t'emmène dans la régie, j'ai montré le spatialisateur, donc on va dans la régie. Donc il me dit, tiens, ben, c'est ce rack là, tu vois. Ben, je dis, ben écoute, tu prends des trucs, tu dévisses. Donc il prend le truc, il dévisse le machin, puis en fait, il y a une boîte vide. C'était du fantasme. Il y avait beaucoup de fantasmes en fait. À l'époque, il y avait des trucs irréels, quoi. Et donc il n'y avait pas ce spatialisateur, il n'existait pas.
D'accord. Prise de conscience, quoi. En fait, il y avait aussi certaines limites, même techniques,
qui pouvaient pas... Et le concert, ça a été un scandale terrible.
D'accord.
Un scandale. Les gens se sont battus, ça a été...
Qu'est-ce qui s'est passé
Je sais pas ce qui s'est passé. Les gens sont devenus fous dans la salle, en fait. Ils se sont battus. Ils hurlaient.
Quelle est la raison? J'ai pas compris.
Mais la musique, en fait, ils disaient arrêtez la musique, quoi.
Ah, d'accord. Parce que tu as fait le concert et... Avec cette guitare et ses variables.
Mais moi j'étais en plus dans, parce que le truc c'est que le truc particulier de cette musique c'est qu'en fait quand tu avais les archets avec tes bras, le truc il fallait en fait générer en fait une résonance de tout le corps avec l'instrument et tout le corps avec l'instrument vibrait. Et donc moi j'étais dans un processus en fait d'évolution de vibration qui était tenu et j'étais complètement sourd en fait de ce qui se passait dans la salle. C'est les copains qui m'ont dit mais Le boxon, mais c'est, qu'est-ce que tu as généré? Les gens étaient en train de se battre, en train de hurler, t'ont insulté et tout. Et j'ai dit, ah oui, j'ai pas vu. Moi, j'ai rien vu, j'étais tellement concentré dans mon truc que j'étais dans le vibratoire. Dans le vibratoire. C'est là où j'ai découvert le vibratoire. En
fait. Mais alors, quelle vibration?
En plus, donc, la vibration acoustique, hein, elle était amplifiée, mais moi, ce que je ressentais dans la musique, en fait, c'est qu'en fait, j'étais dirigé par la vibration, l'évolution de la vibration, le développement, ou les. Qui changeait en fait, et j'accompagnais en fait, comme un surfeur qui accompagne une vague.
Okay.
Il va prendre la vague, et en fait il va la choisir, il va la continuer, il va trouver une autre vague, c'est comme s'il y avait des vagues à l'infini un peu partout, et que tu vas suivre en fait un chemin, dans un contexte particulier, de la technique que j'ai découvert de l'instrument, et que je continue.
Alors on n'est quand même pas dans une mécanique très... Très normalisé, si je puis dire. Si on a un concert de musique et que les gens se crient dessus et deviennent fous, c'est quand même une mécanique un petit peu spéciale d'écoute de musique. Comment t'en es sorti de...
C'est une tradition française, hein, quand même. Hein. Je veux dire, une tradition en France, c'est une tradition dans l'histoire de la musique. Quand il y a une musique nouvelle qui apparaît, il y a toujours des gens qui vont
dans ce sens-là.
Oui, bah, je sais pas, le Sacre de printemps de Pierre-Henri, de Stravinsky, ça a été un boxon. La symphonie pour un homme seul, ça a été aussi un boxon.
Enfin, d'accord. Donc c'est sur cette écoute d'un nouveau genre.
Oui, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose de différent qui correspond pas, tu veux dire, au modèle, les gens, ça les rend fous, quoi.
Ok. Et alors, qu'est-ce que c'est donc, si on fait un petit peu un bond, là, il y a de la découverte, il y a du concert, tu utilises aussi des objets, tu les crées. Dans ta pratique de musique, ce que tu expliques, c'est qu'il y a vraiment toujours ce lien entre la théorie, de la recherche pure et de la mise en pratique. Comment ça s'est développé dans le temps?
Plutôt, en fait, le fait de creuser, de creuser une recherche et à partir des maths, quoi.
Ok.
Les maths ont été un. Oui, parce que les maths c'est facile en fait. Les maths en fait t'as des bornes. Hein. Tu peux borner les choses avec les maths que tu peux pas, ou qui est plus difficile en fait avec le jeu instrumental. Tu vois, sans repère quoi. La théorie musicale c'est juste se donner des repères, hein, c'est pas plus. Hein. Donc après ça, comme je te disais tout à l'heure pour la guitare couchée, que j'appelle ça la guitare couchée, en fait j'ai créé un contexte en fait, un contexte de jeu dans lequel je naviguais comme un poisson. C'est ça qui me plaisait aussi, le fait de créer en fait le contexte. Et le contexte, c'est la théorie musicale. Parce qu'il fallait trouver en fait, moi il fallait trouver une direction et un sens. Tu vois, j'avais pas... Après, je veux dire, c'est vrai qu'on peut prendre une guitare et puis on peut la scier avec un bout de bois. Bon, ça peut être tout à fait chiant ou ça peut être merveilleux.
Ça dépend, il faut tester, hein. c'est tout cette
dimension. Si on cherche, comment dire, à atteindre un sublime, automatiquement, on doit passer par certaines choses. C'est-à-dire des techniques instrumentales, des théories musicales, une pratique, des répétitions.
Très bien. Et comment ça s'est développé alors après dans ta recherche, dans ta carrière, qu'est-ce qui s'est passé finalement après ce concert?
Après la rupture, donc ça a été rupture avec l'institution totale.
D'accord.
Alors ça a été réglé, c'était tout de suite. Quoi.
C'est le moment rupture. Donc,
moi je pensais que j'allais faire une carrière de compositeur comme la continuation un petit peu des collègues, enfin de mes pères, tu vois, comme je te parle, ou Xenakis. Les premières pièces que j'ai écrites, c'est des pièces pour orchestre. Mais quand j'ai vu la fermeture, je me suis dit, bon là, ça va être difficile. Parce que j'ai pas du tout envie de me plier en fait à la technique qu'imposait Boulez, c'est-à-dire la technique sérielle ou post-sérielle, si on appelle spectralisme. C'est des techniques que je trouve un peu pas très intéressantes. Au vu des théories, tu vois, au vu des pensées même philosophiques qu'avançait Deleuze, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule, tu vois. Parce qu'à l'époque, aux années 80, on parlait encore de structuralisme. Je disais, mais on n'en était pas là, quoi. On était déjà avec des processus vivants, en fait. Déjà, les philosophes et les scientifiques étaient dans les processus vivants, et puis les musiciens étaient encore dans des processus morts de structure. Ils parlaient de structure, et de certitude, et de déterminisme. Tu t'es dit, mais on ne peut pas parler de déterminisme avec la mécanique quantique, en fait. Il y avait une espèce de retard des musiciens, et il y a une frustration générale aussi, quelque chose qui était globalement ressenti. Je me suis dit, bon, je ne veux pas mettre dans ce milieu-là, c'est pas possible.
Je comprends, hein, tu as senti qu'il y avait, plus de choses à développer. Et que
qu'il fallait que je m'extraie du milieu, je ne pouvais pas. Puis il y avait beaucoup de rancœur les uns envers les autres, cette rancœur qui augmentait parce que Les compositeurs, à chaque fois, ils voulaient être joués, ils n'étaient pas joués. Enfin, c'était
difficile.
Ça devenait de plus en plus malsain. Hein. Et les années 80, c'était très malsain. Hein. Très, très malsain. Hein. Je me suis dit, non.
Donc tu t'es extirpé un petit peu de ça.
Ouais, je me suis extirpé de ça, ouais.
T'as suivi ton chemin à toi,
ouais.
Mais tout en continuant énormément de recherches, un travail.
Mais en fait, je me suis dit, tiens, je vais retrouver en fait les copains de Pologne et monter un groupe avec eux, un groupe qui se voulait entre jazz, contemporain, avant-garde, enfin, on mélange tout. Allez, hop. Comme ils étaient multimusiciens, je veux dire, c'était et à l'époque, ils m'avaient proposé de faire une tournée avec tous dans tout le pays là. On s'est régalé, quoi. C'était on a joué toutes sortes de trucs bizarres, quoi. En plein communisme. Je me suis fait même attaquer par la police politique, enfin des trucs, mais je me suis dit, ah oui, donc c'est dangereux d'être musicien, là.
Peu importe où on se trouve, finalement.
Oh là là. Oui, on est sur des endroits. Et en fait, j'ai monté un groupe, un trio au départ, mais après, il y avait plusieurs musiciens invités, puis on avait sorti deux disques, quoi, qui ont été interdits d'ailleurs dans les pays de l'Est, qui ne sont pas sortis dans les pays de l'Ouest, parce que... J'ai toujours été dans entre deux chaises, quoi.
D'accord, donc parce que là, on parle plutôt de quelque chose de très pratique, d'avoir un groupe, de faire de la scène, mais on est là dans ce groupe-là, il n'y a pas forcément de la retransmission très directe de tes recherches.
Ah si, parce que j'écrivais j'écrivais les trucs.
Hein. Ah oui, d'accord. Donc déjà avec tous ces groupes-là, il y avait de la composition.
Ouais. Bah, écoute, c'était formidable parce que j'avais les musiciens sur place. Donc, en fait, en tant que compositeur, tu proposes un petit truc, tu dis hey, « ça fonctionne, ça ?» Fais voir. « Ah oui, yes, c'est
clair !» Et puis ça part.
Et ça part. Tu vois, d'accord. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais... Parce que le compositeur, en fait, classique, c'est que il est, en fait, imagine dans un bureau, et imagine un cuisinier, voilà, on va prendre l'exemple du cuisinier. Le cuisinier, il est dans son bureau, et puis, en fait, il écrit la recette dans son bureau, mais il n'a pas ses ustensiles, il n'a rien, en fait. Il n'a ni ses ustensiles, ni ses outils, ni les ingrédients, il n'a rien, mais il est dans son bureau. Ça, c'est le compositeur classique. Après, avec son papier, il va chez l'éditeur et il va multiplier les partitions pour faire des partitions, justement, pour chaque musicien. Et à ce moment-là, quand il aura rencontré en fait, le chef d'orchestre ou le musicien pour qui c'est destiné, c'est à ce moment-là en fait, qu'il va commencer à faire la musique.
C'est-à-dire que tout un long processus.
Le passage en fait, entre l'écriture et la réalisation acoustique en musique classique, C'est un long processus, mais c'est trop long.
D'accord.
Et là, dans cette situation-là, c'était immédiat. On va pas s'en priver. Hein.
Quelle a été finalement cette évolution et cette situation actuelle? Comment on en arrive jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe un petit peu aujourd'hui?
Disons, si on résume le truc, c'est que j'adore me poser des énigmes et j'aime bien les résoudre. Donc en fait, la théorie musicale, c'est poser des énigmes. Une fois que j'ai posé ces énigmes, je les résous en les jouant avec du son.
D'accord.
Voilà. On peut dire ça comme ça.
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça...
Le son me permet de comprendre énormément de choses. Enfin, le son, le vibratoire. Parce que le son, c'est l'objet du vibratoire. C'est une... On a fait l'erreur, là, justement, de vouloir dire que le son est un objet, parce qu'en fait, on considère maintenant que c'est un objet numérique, en plus. Non, c'est pas un objet. Le son, c'est une vibration continue, et puis on coupe, on fait des petits bouts, et puis on croit que c'est des objets. On fait des briques avec ça, mais c'est pas un objet. Tu vois, c'est comme un sample aussi, un échantillon, c'est un objet, parce qu'on a un échantillon sur une touche d'un clavier. Ben non, la musique, c'est pas ça. Tout le monde croit encore que la musique, c'est d'arranger les sons, mais non, pas du tout. Non,
L'essence même, c'est la vibration.
C'est la vibration.
Et la vibration...
Audible et non audible. C'est ça aussi. Parce que le champ vibratoire est gigantesque. Enfin, il va juste des millénaires jusqu'aux nanosecondes. Tout ça, c'est du vibratoire.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une recherche de la compréhension de l'origine même, un état des lieux actuel, et où est-ce que ça peut nous emmener aussi. Que ça peut nous emmener.
Ce que j'ai compris en fait à force, c'est qu'à vouloir à questionner la musique, en fait j'ai questionné la société. Parce qu'en fait la musique, c'est les comportements audibles, quoi. C'est ça que c'est la musique.
Donc il y a un lien. Il y a un lien.
Il y a un lien. Et en fait toute la musique, le sens est même, et pourquoi la musique existe, ou l'art en général aussi, c'est parce que c'est notre nourriture, c'est une nourriture cérébrale, quoi. Et sensible. Si on perd ça, on meurt, quoi. Donc c'est pour ça que je suis très très inquiet en fait avec ce rejet en fait du savoir, de l'intelligence, du bon
de
sens,
la recherche.
De tout ça en fait, ça m'alarme un petit peu quand même, parce que franchement les rejets sont
forts.
Ouais, ils sont très très forts. Ouais. Ils sont vraiment agressifs et hostiles. Ouais.
Bon, et bien c'est déjà une introduction qui annonce pas mal de choses par la suite. Hein. On a évoqué déjà quelques thèmes qui vont être abordés et développés. Écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter sur cette introduction, sur ce parcours. Hein, on parle de toi.
C'est pas de moi, c'est bienvenue dans le monde, dans la découverte du monde. Mais la découverte du monde du côté audible. Parce qu'on a oublié d'écouter les choses, on a oublié d'entendre un peu. On sait plus entendre vraiment.
Bon, et bien on vous invite à prendre du plaisir sur ces formats d'écoute et puis à très vite.